Chapitre 22. Charge de cavalerie. La route était toujours droite et semblait se précipiter dans un trou, d'où elle se relevait brusquement pour grimper l'autre côte, raide comme l'échelle du grenier de métaux. Entre les deux côtes, c'était le fameux fond de Bois-le-Roi, et, par un singulier hasard, je pris d'abord cela pour un hasard, la berline qui portait M. Edoux de Pelédoux et sa belle pupille était arrêtée au bas de la rampe. Nous ne pouvions plus voir la cavalcade qui maintenant devait monter la rampe opposée. « Garde ton secret, Joson, dis-je. Pendant que tu étais là-bas, as-tu remarqué des cavaliers en troupe ?»« Oui, bien. Les as-tu comptés ?»« Qui donc ? Cinq peaux de bique et un monsieur. C'est-il eux que nous allons calfater ?»« Je le pense. » Et pourquoi ça, sauf respect de vous, monsieur le chevalier ? Je montrai du doigt la chaise arrêtée et je répondis : ils veulent attaquer une jeune dame qui est dans cette voiture. Et qu'est-ce que ça nous chaud à nous ? Tu n'es donc pas un breton, Joson ? Adame si, nom de delà ! Et puis, je m'en moque pas mal que ce soit pour ci ou pour ça. Prenez le monsieur, je vas piler les cinq pots de bique. Me v'là devenu trop fort depuis que je l'ai ru. Embarque ! Nous étions désormais tout près de la chaise arrêtée, autour de laquelle s'empressaient deux valets, le postillon et le vieil écuyer qui était venu chercher Mademoiselle de Bois-le-Roi à l'issue de la messe. Je pouvais voir maintenant l'obstacle qui empêchait l'équipage de passer. C'était un peuplier qui, abattu par le vent ou de main d'homme, se couchait en travers de la route, au devant d'un petit pont de pierre, sous lequel passe le rue Vesbron, affluent de la rivière de Vilaine. L'assemblée du mi-mai, gloire et profit de Montreuil-sous-Pérouse, attire les gars et les filles à quatre lieues à la ronde. Toutes les fermes du voisinage étaient désertes. On avait pu se procurer deux paysans avec de mauvaises haches pour attaquer l'obstacle. Catiche avait raison. Le fond de Bois-le-Roi présentait en effet une fort méchante mine comme lieu d'embuscade. Pour un peintre, c'eût été un paysage de choix, car les deux côtés de la route avaient des arbres magnifiques, dominant un sous-bois plantureux et touffu, comme on rêve les forêts vierges. À droite du pont, le ravin où coulait le Vesbron ouvrait une perspective assez large, dont les deux lèvres, coupées dans le calcaire, laissaient passer la dent du marbre gris si commun autour de Vitré. Elles allaient toujours s'élevant jusqu'à un détour du ruisseau qui fermait la vue par une montagne à pic toute noire de pins, et au-dessus de laquelle un monument celtique de taille énorme, une roche aux fées, dessinait ses profils carrés. À gauche, c'était une taille mûre, surmontée aussi de ses vétérans séculaires, et où nul sentier ne se montrait. Le jour, qui était encore brillant sur la côte, s'assombrissait à mesure qu'on descendait, et l'endroit où la chaise restait empêchée s'enveloppait déjà d'une ombre brune. « Reste un peu en arrière, » dis-je à Joson, craignant l'effet de sa tenue. « Je vais parler aux voyageurs. » Joson se mit à regarder philosophiquement les paysans qui hachaient le tronc du peuplier pour ouvrir un passage. Je m'approchai de la portière où la rouge et large figure de M. Edoux de Pelédoux se montrait, bouchant exactement l'ouverture. À ma vue, il se renfonça dans l'intérieur de la berline, ce qui démasqua le délicieux visage de sa pupille. Je mis le feutre à la main et je dis « Monsieur, il est fâcheux que vous ne me connaissiez pas, car nous avons bien peu de temps à donner aux explications. Vous allez être attaqué. »«
Je m'en doutais !»
s'écria le gros bonhomme d'un accent plaintif.
« Ils ont fait cet abatti pour nous arrêter juste au fond de ce coupe-gorge !»
Hermine fixait sur moi ses grands yeux tristes et profonds. « Ce gentilhomme, » dit-elle, « et jamais je n'entendis une voix plus mélodieusement vibrante. Était-ce ce matin à la grand-messe, dans le banc de monsieur le vicomte de Saint-Pierre ? Le gros tuteur mit ses lunettes à cheval sur son nez pour me regarder. Avec ce nez-là, retaillé adroitement, on eût fait une demi-douzaine de nez ordinaires. «
Ah ! » murmura-t-il, « dans le banc de Bertrand. Oh, nous voilà bien. Oui, je crois me rappeler. » « Que le bon Dieu ait pitié de nous, ma minette !»
Je dois avouer que l'expression peinte sur les traits de Mademoiselle de Bois-le-Roi concordait avec les exclamations de son oncle. J'inspirais ici tout le contraire de la confiance. Il n'y avait pas à hésiter.
Je racontais brièvement mais clairement ma conversation avec l'apôtre Saint-Pierre, les propositions qu'il m'avait faites, la façon dont je les avais acceptées pour obéir à la vicomtesse, et je répétais une partie des explications que cette dernière m'avait fournies dans le grenier de métaux. Pendant que je parlais, mademoiselle de Bois-le-Roi me regardait attentivement. Monsieur Edoux de Pelédoux se tamponnait le front d'où tombaient de grosses gouttes de sueur. Comme j'achevais, le nuage de poussière se montra au sommet de la côte. « Foi de Dieu !» s'écria Joson. « Voilà les peaux de bique qui dévalent et le monsieur !» Le tuteur et sa pupille se penchèrent en même temps aux portières. Par celle de droite, Hermine demanda où en était le travail des haches, et il lui fut répondu que dans une petite heure, tout irait bien. Par la portière de droite, le gros bonhomme regarda Joson, dont la voix avait attiré son attention. « Ah, par exemple » fit-il, et son regard désolé s'éclaira. « Voilà le gars qui a éternué. Je parie que c'est un bon garçon. Est-ce qu'il est avec vous, jeune homme ?»«
C'est mon domestique, » répondis-je.
Joson se rengorgeait, murmurant. « Paraît que, malgré ma crotte, on ne crache point dessus moi, monsieur le chevalier. »«
Monsieur, monsieur !» dit Hermine, qui avait regardé en arrière. « Au nom de Dieu, défendez-nous !»«
Mademoiselle, » répondis-je en la saluant avec respect, « je suis ici tout exprès pour cela. » La cavalcade descendait comme un tourbillon, l'apôtre Saint-Pierre en tête. Le gros homme eut une bouffée de vaillance. Il appela ses valets et le postillon par leur nom, ainsi que l'écuyer qui se nommait Monsieur Lecker.
« Ah, diable » cria-t-il, « ces coquins-là vont voir beau jeu. Nous avons dans le coffre 3 paires de pistolets et le tromblon. À cheval, Monsieur Lecker, vous avez de bons gages, gagnez-les. Et vous, jeune homme, je vous permets de nous défendre, puisque vous êtes avec ce brave gars qui a une si honnête figure. Armez les 2 paysans qui vivent sur le domaine de Bois-le-Roi, ils nous doivent assistance, selon toutes les lois divines et humaines. »
Il parlait ainsi, de cette voix sifflante et grêle qui sort presque toujours des gorges trop dodues, et son discours se termina par un cri lamentable que la détonation d'une arme à feu accompagna. Il avait voulu saisir une paire de pistolets dont l'un avait parti entre ses doigts. Cela dessina la situation en un clin d'œil. Au bruit du coup de feu, les 2 valets, le postillon et les 2 paysans qui, selon les lois divines et humaines, devaient assistance à mademoiselle de Bois-le-Roi, sautèrent tous ensemble par-dessus le peuplier et détalèrent comme une 30 de lapins. Je ne sais où ils se terrèrent, mais le temps de tourner la tête, on ne les vit plus. Le vieil écuyer Lecker, au contraire, s'était remis en selle et faisait excellente contenance. Il dégaina crânement et en homme d'épée. Joson Menou, autorisé par le suffrage du gros bourgeois de Vitré, s'était mis en ligne avec fierté. Il avait toujours son penn-basse en travers de sa selle, et je l'entendais qui murmurait d'un ton tranquillement goguenard. « Oui, donc j'ai bien fait d'aller le rechercher. Si je ne l'avais point en rue, j'étais capable de gagner ici quelques mauvais coups. À présent, pas de danger. » La vaste figure de Monsieur Edoux de Pelédoux avait disparu de la portière, et sa voix de flageolet enrhumé gémissait tout au fond du carrosse.
« Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, Jésus-Maria ! « Appelez la maréchaussée, je suis blessé, je suis mort. Appelez la prévôté. »
Toutes ces choses avaient lieu à la fois, quoique je sois bien obligé de les raconter l'une après l'autre. À la rigueur, l'apôtre Saint-Pierre, ayant entendu le coup de pistolet et voyant le vieil écuyer s'approcher de moi l'épée haute, pouvait croire que je jouais mon rôle dans la comédie convenue entre nous. Aussi joua-t-il le sien, et au moment où le nuage soulevé par sa cavalerie nous enveloppait, il se mit à crier « Coquin, scélérat, je te reconnais. C'est donc ainsi que tu payes mes politesses. Tu veux dévaliser mon respectable parent. Tu veux enlever la belle des belles. Attends, misérable, attends !» Et pan, et pan, 2 pistolades qui n'étaient pas de la comédie, car une des balles siffla quelques lignes de mon oreille et l'autre me laboura l'épaule gauche à la naissance du cou. J'aurais bien pu le prévenir si j'avais suivi les conseils de Catiche. Certes, j'avais confiance en elle, quoiqu'elle ne fût plus vicomtesse. Mais, dut le lecteur me blâmer, je fus pris d'un scrupule. Je voulus voir par moi-même si l'apôtre Saint-Pierre était véritablement un assassin. Je fus fixé très bien. Je faillis même l'être trop bien. Un pouce de plus, à gauche ou à droite, et je n'aurais pu profiter de mon expérience que dans l'autre monde. Le choc eut lieu tout de suite après. Je dégainai, mais je n'eus pas besoin de parer les stockades à bras raccourcis que l'apôtre me lançait pour sceller définitivement notre acte d'association. Ce diable de Joson lui envoya le gros bout de son bâton dans la tempe. Le terrible Bertrand dégringola de son cheval et Joson dit « Le failli merle n'a pas tant seulement gloussé !» Le vieil écuyer s'entreprit avec la peau de bique qui suivait l'apôtre. Mon coup d'épée fut pour le troisième coquin qui le reçut en plein estomac et se démena si fort avant de tomber que son grand chapeau rabattu s'envola, découvrant le nez rouge et dodu de Monsieur Pied de Vache, mon hôte de la place du Pilori, à Rennes, à l'enseigne du signe de la croix. « Jésus, Maria !» pleurait le gros tuteur au fond du carrosse. « Sainte Barbe, Sainte Claire, préservez-nous du tonnerre. Ne frappez pas un infirme, mes vrais amis. Je n'ai pas ma bourse sur moi. Agnus Dei, je fais vœu de donner une vierge d'argent à la paroisse. » Ou tout au moins de cuivre doré. À la garde, à la force, on m'écorche. »
Joson travaillait les deux dernières peaux de bique. Je me retournai parce que la douce voix de Mademoiselle de Bois-le-Roi m'appelait. Je vis les deux valets, le postillon et les deux paysans qui nous regardaient tranquillement derrière les baliveaux. Dans le carré formé par la portière de la berline, la pâle figure d'Hermine s'encadrait. Il y avait de la bravoure parmi sa grande émotion. Elle était d'une beauté angélique.
« Prenez garde, monsieur le chevalier, » me dit-elle. « En voici d'autres qui viennent. »